A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
J'ai oublié la musique de tes pas, je n'entends plus que le grondement de leurs bottes. C'est page 29 de Je suis seul, nouveau roman de Bérouk, qui nous emmène sous un ciel bédouin au pays de la galette d'orge. Pays, la Mauritanie, où la conversation se fait désormais entre portable et chameau. Bérouk, auteur de 3 romans, prix Amadou Kourouma pour Le tambour des larmes en 2016. Sa plume nomade est passée par l'étude du droit et le journalisme. Fondateur en 1988 de Mauritanie Demain, premier journal indépendant du pays. Il est également nommé en 2016 conseiller à la présidence de la République par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, proche du pouvoir sans être aux ordres, amoureux de la philosophie nomade et de la raison qui prône liberté et égalité. On dirait bien que Bérouk pratique un sol majeur en apesanteur. Bonjour Bérouk.
Bonjour.
C'est votre nom de plume, ça, Bérouk, mais en fait, vous vous appelez vraiment Mbarek Oul Bérouk. Votre prénom est passé à la trappe ?
Oui, c'est mon nom de plume, c'est mon nom de famille. Mon prénom n'est pas passé à la trappe, mais chez nous, la différenciation que vous faites entre prénom et nom n'est pas évidente. Et j'ai préféré ce nom-là parce que je me reconnais, c'est un nom qui porte mon histoire, qui porte l'histoire de ma famille. Ça représente plus qu'un nom.
Alors on s'interrogera sur la trajectoire des Bérouk tout à l'heure. Vous êtes à la fois, et on le sent en vous lisant, journaliste et romancier, un peu inquiet pour la quiétude de son pays, la Mauritanie, un pays impliqué dans l'histoire du djihadisme. On se souvient, je donne juste un repère comme ça, d'Abou Hafs, djihadiste mauritanien, ancien compagnon d'Oussama Ben Laden. Mais la Mauritanie des années 2000 lutte contre cette tragédie, notamment par le dialogue avec les djihadistes.
Dans toute chose, il faut un dialogue, même quand vous êtes en prison. Ce dialogue a concerné des jeunes comme moi, un peu perdus, mais aussi des intégristes, très durs. Il a permis d'apaiser un peu les choses. Et on peut dire que ça a réussi, car depuis le dialogue, en 2010, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Mauritanie. Et les jeunes amnistiés à la suite du dialogue n'ont pas rejoint de groupe armé.
Preuve que le dialogue est nécessaire tout le temps. En 2011, j'avais rencontré l'un des djihadistes les plus connus, Mokhtar Belmokhtar. À l'époque, il m'avait dit être prêt à dialoguer sur l'idéologie avec des cheikhs mauritaniens. Il me disait, s'ils nous prouvent que nos actions sont illégales, alors nous arrêterons. Le dialogue, ça n'a pas de prix, mais la guerre, oui. Et tout le monde est perdant, alors qu'avec le dialogue, tout le monde est gagnant.
M comme mal du pays.
Alors Bérouk, cette question du djihadisme vous intéresse au plus haut point. On vient d'entendre un repenti, Malek de son petit nom. Vous confirmez que ce dialogue avec les djihadistes, initié par un de vos confrères d'ailleurs, a apporté un semblant de paix en Mauritanie ?
Oui, le dialogue avec des anciens djihadistes a été très important. Ils ont discuté avec des ulémas, avec des théologues mauritaniens, et ça a eu une forte influence. Mais ce n'est pas seulement le dialogue, c'est aussi la sécurisation des frontières. C'est aussi une armée plus moderne, mieux entretenue. Et c'est aussi le rejet de la population des idéaux portés par ces djihadistes.
Alors on va voir ça justement avec votre nouveau roman « Je suis seul » que je viens de refermer et où on sent le souffle djihadiste souffler très fort sur le Sahara mauritanien. Vous avez installé un personnage, votre narrateur, dans une planque, sans eau, sans électricité, sans nourriture, très loin du regard des djihadistes.
Je commence à sentir la faim. La bouillie que m'a servi Nezha a été vite digérée. Je n'ose penser qu'il y a des endroits maintenant, à cet instant même, où l'on mange à satiété, où l'on va dans des restaurants, où l'on se dandine près des plages, où l'on lit des livres, des journaux, où on peut parfois, au grand jour, s'aimer. J'ai l'impression d'avoir connu cela il y a déjà un siècle. Et pourtant, il y a seulement quelques heures que je suis là. J'enrage de moisir dans cette bicoque aux fenêtres closes et qui ne laisse passer que des restes de ciel que j'ai volés au destin sombre qu'ils nous promettent.
Bérouk pour un sol majeur avec un extrait de « Je suis seul » sur RFI. Donc il y a comme une odeur de fin du monde. dans ce cœur du Sahara mauritanien. On va revenir évidemment sur ce narrateur qui semble seul au monde, dans sa planque, puisqu'il veut échapper aux djihadistes qui patrouillent dans la région. Mais parce qu'il va dérouler toute sa vie dans sa tête, on découvre une galerie de personnages et j'aimerais bien que vous nous disiez par exemple deux mots d'une certaine Nezha et d'un certain Etman. Qui sont-ils ?
Nezha, c'est une jeune fille qui par elle-même n'a pas de folle ambition, mais qui connaît sa vérité, qui connaît son chemin et qui s'y tient. Son frère est emprisonné à Guantanamo, injustement elle le pense, elle va voir les députés, elle écrit des lettres, elle prend des avocats. Tout cela sans crier des slogans, sans s'afficher vraiment. Et puis, dans ses amours, elle a été trompée et tout cela, elle l'a supporté. C'est la femme mauritanienne classique qui ne fait pas de grand bruit, mais qui si elle voit, elle y voit fortement, personne ne l'arrêtera. Esmaël, lui, c'est un jeune homme qui est perdu, un jeune homme de cité, qui a commencé par les petits chapardages et qui petit à petit a pris une certaine conscience de la vie où il est. Et surtout, ce qui l'a fait changer, c'est sa cousine qui a été violée par des soldats. Et à partir de là, il a porté une haine au système où il vit. Esmaël, en fait, est un homme ordinaire, un homme de tous les jours.
Un homme perdu.
Un homme perdu qui un jour devient un terroriste. Pourquoi ? D'abord parce que sa fiancée a été violée par des soldats, que le commissaire de police l'a renvoyé, lui a dit « Vas-y voyou, bien sûr je suis un voyou ». Mais ce n'est pas le problème, il a dit. Le problème c'est qu'elle a été violée. Et puis peut-être il a appris à haïr la société où il est et cela a entraîné vers le terrorisme. C'est un homme sans instruction, sans connaissance même religieuse, mais le fait d'apporter un mouvement terroriste lui a donné une certaine forme d'importance à ses yeux. Parce qu'il portait un fusil, parce que les autres ont peur de lui, parce qu'il se promène maître dans une cité qu'il est rejetée. J'entendais pas dans les couloirs, je m'abrite dans les toilettes. Des gens parlent. Tu l'as vu l'autre, le jeune qui pleurait? T'as entendu ses cris? Et les mecs là, l'homme au turban, un pauvre bédouin, tu l'as vu? Il ne branchait pas. Il regardait dans le vide, il ne bougeait pas. Et celui-là qu'on traînait par terre et qui pleurait, mon Dieu, mon Dieu. Ah, cela devait être la grande fête annoncée par les haut-parleurs et dont les âmes a rapidement entretenu. Des punitions collectives. La population était invitée, des mains coupées, des femmes et des hommes flagellés. Pas d'exécution capitale cette fois-ci, m'a-t-elle dit. Et pourtant, le peuple a-t-elle ajouté, adore. Ah oui, je me dis, cet instinct n'est pas mort. Depuis toujours, le peuple s'agglutine sur les places publiques pour voir souffrir, puis mourir les condamnés.
Est-ce comme soliloque?
Alors une première question sur ce personnage qui est planqué pendant des heures loin du regard des djihadistes. Pourquoi est-ce qu'il représente une cible pour les djihadistes?
Il représente ici parce qu'il a été journaliste, défenseur des forces possédantes, défenseur du maire, défenseur des administrateurs de la cité, défenseur du système en place.
Il a écrit un article notamment qui s'appelle « Nos Passaranes ».
Il a écrit un article qui a intitulé « Nos Passaranes ». C'est un vieux slogan de la guerre d'Espagne. Il veut dire « Ils ne passeront pas ». Il voulait dire que les djihadistes ne vaincront pas. Mais en fait, les djihadistes ont vaincu. Et l'armée s'est enfouie et leur a laissé la place. Et là, quand les djihadistes sont venus, lui n'était pas vraiment dans la ville, il était aux abords. Vous savez, les gens aiment bien sortir de la ville, aller dans le désert quelques heures, ça se passe à Nouakchott, ça se passe à Tombouctou. Partout dans les villes à l'orée du grand désert, les Sahariens aiment sortir dans le grand désert de temps en temps et revenir. Lui, il était sorti, quand il est revenu, il n'a rien vu. Et il s'est trouvé, en fait, emprisonné dans cette ville quand il a vu les djihadistes de loin.
Alors, c'est un journaliste qui s'est trouvé dans le mauvais camp, celui des puissants, mais c'est pas seulement ce qui dérange les djihadistes. Votre narrateur est aussi le descendant d'un certain Nasser ed-Din, qui a été imam et qui fait figure de saint dans la région. Et ça, ça dérange les djihadistes, pourquoi ?
Oui, bon, il y a cette vieille haine des djihadistes pour les soufis, parce que le soufisme est le contraire tout à fait des thèses proposées par les djihadistes. Le soufisme appelle à une plénitude personnelle, vivre Dieu en soi. sentir Dieu en soi. Alors que les djihadistes appellent au massacre, au pillage, ainsi de suite. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Et puis Nasreddin, c'est un personnage qui a réellement existé, qui avait appelé à la guerre sainte à la fin du XVIIIe siècle. La guerre sainte qui s'est opposée au royaume africain aux côtés du Sénégal et qui les a vaincus. Qui s'est proposée aussi aux nouvelles populations arabes qui étaient venues rentrer en Mauritanie et qu'ils considéraient comme impies et qui a appelé à une guerre sainte. Qui a été considéré comme un saint, comme un Mehdi, quelqu'un qui appelait un nouveau monde. Et il a fait rêver des milliers de gens à l'époque qui sont allés le suivre. Il a été vaincu et un massacre terrible des siens a suivi.
Pourquoi, cher Bérouk, avoir fait le choix du soliloque pour parler de cette question du djihadisme en Mauritanie ?
Quand je parle du djihadisme, je ne parle pas du djihadisme seulement en Mauritanie. Je parle du djihadisme dans tout le Sahara. Parce que moi, au-delà du fait que je suis Mauritanien, je suis avant tout un Saharien. Je suis d'une population qui existe aussi bien au Sahara, au sud du Maroc, au sud algérien, au nord malien. On ne fait pas de différence. Les frontières existent, mais les frontières ne sont pas dans nos têtes, ne sont pas dans notre culture. Notre parenté est éclatée, nos familles sont éclatées entre toutes ces régions. Donc quand je parle d'abord en tant que Saharien.
Alors pourquoi ce choix quand même du soliloque? Votre narrateur parle seul pendant presque 300 pages.
Et je crois que c'est une introspection qu'on devrait faire tous. C'est le fait de se poser des questions. Lui, son prisme, c'était l'interstice dans la fenêtre. Il voyait tout le monde à partir de ça.
Donc introspection et peut-être autocritique. En tout cas, cet enfermement pendant quelques heures, une journée, une nuit, c'est un peu comme une guerre contre soi, effectivement, et même contre l'autocensure qui agit. Mais qu'est-ce qui nous prend à baisser la tête contre tous ces interdits? C'est ce que se demande votre narrateur.
Oui, qu'est-ce qui fait que les gens plient? Qu'est-ce qui fait que les peuples acceptent les servitudes? Et les djihadistes, parfois même, ils amènent un espoir. C'est ça le plus dangereux.
Mmh. Je repense justement à ce moment où le narrateur raconte qu'un jour, Nezha avait joué à un jeu. Elle s'était habillée en voile sombre, comme ça, et puis elle s'était dénudée tout d'un coup, comme ça. Comme un jeu.
Ah,
Est-ce que vous voyez, mais ça peut être
ce
perçu.
Ce n'est pas Nezha, c'est ça.
C'est sa femme.
C'est sa femme. Ouais.
Pardon,
ouais.
Selma. Mais est-ce que vous, Bérouk, vous rencontrez des formes de résistance par rapport au fondamentalisme aujourd'hui en Mauritanie?
Oui, je rencontre chaque jour des formes de résistance qui s'habillent traditionnelles, qui ne se posent pas beaucoup de questions quant à leur appartenance à leur culture, ainsi de suite. Il n'y a pas de djihadistes ni de femmes avec une burqa à chaque coin de rue, non.
Est-ce que...
Les djihadistes ont toujours été minoritaires. Pour faire du terrorisme, il ne faut pas être nombreux. Alors que pour construire un peuple, il faut des milliers, des millions.
Est-ce que vous diriez qu'à Nouakchott ou dans les régions les plus reculées, cette folie djihadiste touche autant les paumés, les délinquants comme votre Hetman que les diplômés?
Et il faut faire attention. Quand je dis cette folie des djihadistes, c'est une minorité d'une minorité. On ne les voit pas, on les voit très très peu.
Mais il y a une folie malgré tout.
Mais il y a une tentation à l'islam politique. Je ne dis pas que les islamistes sont des criminels, ni qu'ils sont des...
Ah bon, pourquoi?
Parce que ce sont des gens qui verbalement reconnaissent le système démocratique chez nous. Ils jouent le jeu, pas seulement chez nous, au Maroc, en Tunisie, ils sont au pouvoir. Mais je dis que c'est une pente dangereuse.
Qui menace la Mauritanie?
Qui menace pas seulement la Mauritanie, toute la région. L'islam ne saurait être l'apanage d'un parti, ni d'une fraction. Parce que l'islam devrait appartenir à tous. Et les principes de base de l'islam sont acceptés par tous.
Alors, le djihadisme, c'est pas seulement du cinéma comme chez Abderrahmane Sissako, c'est pas seulement de la littérature comme chez vous, hein, Bérouk, c'est vraiment du quotidien, d'abord pour des millions de musulmans. Et vous avez l'air de dire que ce qui explique l'islamisme radical, c'est peut-être le passage de l'ancien monde, avec sa saison des pluies, au nouveau monde, le monde connecté. Passage qui a révélé, dites-vous, les failles du système. Vous écrivez, page 44 de « Je suis seul », le plus dur, c'était de rabattre sa fierté. de composer avec des citadins qui ne connaissaient rien, qui ne savaient pas distinguer entre les gens, entre ceux qui avaient porté le sabre et le livre, entre ceux qui ne savaient que traire les bêtes. La noblesse du désert s'est dissoute dans le vulgaire des cités. C'est ce dont a le plus souffert ma mère, la dissolution de nos valeurs. Et nous retrouvâmes dans les villes une aristocratie déjà installée, une élite de l'argent, de la corruption, de la vénalité, et qui de plus nous regardait de haut, nous les fils des nuages et des vents.
Moi je dirais que c'est vrai qu'il y a une rupture entre le monde que nous avons connu et le monde d'aujourd'hui. Les Mauritaniens sont rentrés dans le monde moderne, dans le monde des cités, à la fin des années 70, au début des années 80, la grande sécheresse. Quand il y a eu la grande sécheresse qui a décimé tous les bétails, et les nomades sont morts de faim, la majorité des nomades sont rentrés en ville. Et là, ils trouvent des cités avec d'autres valeurs, où ils n'ont plus aucune importance, où ils ne comptent pas. Parce que ce qui compte, c'est l'instruction moderne, ils ne l'ont pas, et c'est l'argent, ils ne l'ont pas. Alors, ils deviennent ou bien des parias, ou bien de prolétariat dans les bidonvilles. Et là, naît une certaine amertume, un certain dégoût de ce qui est autour d'eux, et parfois une certaine révolte. Et on s'abrite d'autant plus facilement dans le fanatisme qu'on est ignorant.
Alors, vous qui êtes francophone et sans doute francophile, vous savez que certains intellectuels se plaignent en France du fait que les médias français, occidentaux, on va dire, tendent moins leur micro à la grande majorité des musulmans qui souhaitent vivre en paix dans une société laïque, hein, pour le dire vite, qu'aux prédicateurs ou aux musulmans extrémistes, suivez mon regard. Est-ce que vous avez l'impression de vivre aussi cette situation en Mauritanie, qui est une république islamique, hein, je le rappelle? Est-ce qu'il y a un bâillonnement de la majorité?
Moi, quand on parle de musulmans de France, on voit souvent des imams de la mosquée de Paris qui représentent les musulmans. Moi, je pense que cette forme de représentation n'existe pas dans l'islam. L'islam, il n'y a pas de clergé. Un imam ne représente pas la population. Les représentants des musulmans de France, c'est peut-être des avocats, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont réussi dans leur vie, c'est des gens qu'on ne fait pas parler, c'est des étudiants, c'est des chercheurs.
Donc là, il y a déjà un hiatus.
C'est des femmes infirmières, il y a un grand hiatus. Quand je vois un imam parler au nom de la communauté musulmane, je dis, chez nous, l'imam ne parle pas en notre nom. L'imam, on prie derrière lui, mais il ne parle pas en notre nom dans la vie civile, dans la vie de tous les jours.
Donc il y a une dérive.
C'est une dérive, parce qu'un imam n'est pas forcément un monde instruit des choses d'aujourd'hui, alors que les jeunes...
Mais est-ce que chez vous, en Mauritanie, vous vivez aussi une forme de bâillonnement, la grande majorité, on est musulman à 90% en Mauritanie, mais est-ce que la grande majorité... contre, évidemment, l'extrémisme religieux, le fondamentalisme religieux, ose le dire haut et fort?
Ah non, en Mauritanie, ce n'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Parce que, premièrement, on n'est pas à 90% musulmans, on est à 100% musulmans. Deuxièmement, la grande majorité des imams, des cadis, des hommes religieux, sont contre le fanatisme, ils les disent chaque jour. Et ce sont eux qui sont à l'écran, ce sont eux qui parlent le plus souvent. Pas les djihadistes. Pas les extrémistes. Nous sommes très imprégnés de l'islam traditionnel, qui est un islam malikite, qui est un islam assez tolérant, ou un islam soufi. Et les confréries soufis sont encore très fortes, heureusement.
Alors on va faire un pas de plus vers l'une des tribus maures du Sahara, puisque la diva du désert a mis ses voiles mauves pour chanter. C'est l'immense Dimi Mintaba, chanteuse mauritanienne que vous avez programmée en sol majeur, Berouk. Elle chante quoi en général, cette immense chanteuse?
Elle chante la musique maure, je dirais, la musique hassania qui va au-delà des frontières de Mauritanie. C'est une diva en Mauritanie, mais dans tout le Sahara.
Da da da.
Magnifique Zimimin Taba sur RFI, qui fait mouche hein, d'ailleurs, autant en Afrique noire qu'en Inde ou au Maghreb. Et c'est grâce à un auteur mauritanien, Berouk Mbarek Ould, de son petit nom.
Mbarek, c'est tout.
Ah oui,
Mbarek. On est tous des Ould, tout le monde des Ould. Tout le monde des Ould, quelque
Ould.
Chose. C'est-à-dire fils de telle famille, de telle tribu, de telle fraction.
Alors Mbarek, donc, qui en pince pour un certain Victor.
Nous avons démoli l'ancien régime dans les faits. Nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées. Détruire les abus, cela ne suffit pas. Il faut modifier les mœurs. Vous avez démoli. Démolir peut être utile. Mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, monsieur l'évêque. Et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe. Et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète soit, mais sublime. Elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité.
J'ai comme...
Son résultat, c'est le monde meilleur.
Un grand quelqu'un.
De ses coups les plus terribles, il sort une caresse pour le genre humain.
Oui, car vous avez reconnu, ou presque, un extrait des Misérables, oui. Berouk. Est-ce que Victor Hugo est toujours même un grand quelqu'un pour vous?
Ah oui, c'est pas seulement un grand cas, c'est le quelqu'un de la littérature mondiale. Moi, j'ai rencontré Victor Hugo à 13 ans. C'est la première chose que j'avais lu en français, parce que mon père m'avait donné un livre, il m'avait dit de le lire pendant la période de la Guetna. La période de la Guetna, c'est la période de l'école des dates, qui va de juin à septembre.
Oui, il fallait tout ce temps-là quand même pour lire Les Misérables. Hein? Hein? Fallait tout ce
oui,
temps
oui, à
récolte.
Mon âge, pour lire Les Misérables, et surtout dans une autre version, il fallait tout ce temps. Et depuis, ça m'a complètement transformé, la lecture des Misérables.
C'est-à-dire
Mais, ça veut dire qu'à partir de ce moment, j'ai appris à aimer la littérature et la littérature française. J'ai appris à aimer le français.
Pourtant, il racontait, il parlait d'un monde qui n'a rien à voir avec...
Qui n'avait rien à voir, mais à 13 ans, je lisais et je voyais Gavroche. J'aurais voulu bien être Gavroche.
Mais vous arriviez à calquer le Jean Valjean, le Gavroche, à la société mauritanienne dans laquelle vous viviez ou c'est parce que ça n'avait rien à voir?
C'était un autre monde. C'était un monde rêvé. Mais l'essentiel, c'est que c'est...
Un monde de pauvreté, pourtant.
De pauvreté. On connaît la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait de beaux, de romantiques, d'éloignés, de différents.
Et c'est lui que vous a donné envie d'écrire, finalement.
Et c'est lui qui m'a envie de lire, d'abord. Et c'est la lecture qui m'a donné envie d'écrire.
Est-ce qu'écrire, c'est un peu remettre en cause l'ordre établi pour vous?
Oui, écrire, c'est d'abord la meilleure manière de se remettre en cause soi-même. De se peser, de se sous-peser. Et c'est une forme de liberté aussi. C'est s'éloigner du monde ambiant, de là où vous êtes. Et il y a nécessairement rupture. C'est une énorme liberté que d'écrire. Des régimes autoritaires devraient interdire l'écriture.
Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de
oui,
dire,
parce que
Berouk,
parce que c'est une forme de libération.
Bah oui.
Parce que c'est une forme de libération.
Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils font les régimes autoritaires?
Ils veulent interdire toutes les libertés. Oui. Alors l'écriture est la plus grande liberté.
Il y a des libres-penseurs qui sont dans les geôles.
J'espère qu'ils ne m'entendent pas, qu'ils ne nous écoutent pas pour ne pas... Mais on ne peut pas emprisonner quelqu'un qui écrit, parce qu'il sera toujours un homme libre.
Je ne sais pas si vous avez lu un jour Roland Barthes. En tout cas, il disait que pour lui, l'écriture devenait subversive lorsqu'elle s'attaquait à la forme, à la syntaxe. C'est-à-dire qu'on peut écrire quelque chose de très violent, on peut raconter, rentrer dans la tête par exemple d'un extrémiste. Mais si cet extrémiste s'exprime avec des subjonctifs ou des participes passés, la subversion est moins au rendez-vous. Et quand je vous lis, Berouk, j'ai l'impression que vous êtes terriblement dans une forme de respect pour la langue française. Donc ça, c'est ma question politiquement incorrecte. Est-ce que vous pensez que le respect peut être un symptôme du colonisé que vous avez été?
Colonisé, je l'ai été très peu. Je n'ai jamais été colonisé. Je suis né juste avant la colonisation. Et puis colonisé...
Vous parlez une autre langue.
Colonisé en Mauritanie, ce n'était pas évident parce que les Français est resté une quarantaine, cinquantaine d'années. Et puis, il n'était pas avec nous. Il était dans des forts quelque part pour faire la paix. Mais 95% des Mauritaniens en 1960 n'avaient jamais vu de Français. Le désert était une liberté.
La langue française n'était pas une forme de colonisation pour vous?
Non, non. Au contraire. Mon père était instituteur de français du temps de la colonisation. Ils pensaient qu'enseigner le français aux petits nomades, c'était leur donner les armes de la liberté. Et ils disaient que la langue française est une forme de libération. Ils étaient anticolonialistes, ils étaient indépendantistes. Mais ils pensaient que la langue française n'était pas la colonisation, c'était le contraire de la colonisation.
La colonisation... Vous pensez pareil, vous pensez comme papa.
Oui, je pense que la langue française est avant tout une arme de libération.
Mais sur cette question d'être subversif dans la langue, c'est une interrogation pour vous ou pas du tout ?
Non, je n'ai pas à faire la révolution dans la langue française.
Pourquoi ?
Parce que j'y suis entré un peu par infraction. Je sais bien qu'aujourd'hui, on aime écrire n'importe quoi, des gribouillis, on aime inverser les choses, on aime faire des effets. Mais non ! Moi, j'aime la littérature française et la littérature telle que là, je connais, les grands classiques. Peut-être je suis réacte dans l'écriture. Je l'assume.
Alors quand on parle de colonialisme ou de néocolonialisme, dans les têtes, il peut y avoir un enchaînement possible avec l'OIF. Vous voyez de quoi je veux parler. Si vous en êtes d'accord, on va inviter la toute nouvelle secrétaire générale de l'OIF dans cet ensemble majeur, Louise Mushikiwabo, à qui on demandait au micro d'International pour RFI et TV5 Monde, si cette nomination était un pas vers la réconciliation entre le Rwanda et la France.
Je l'espère. Vous savez, pendant toutes ces années, depuis 1994, l'appartenance du Rwanda à la francophonie a été affectée par la relation entre le Rwanda et la France, surtout du point de vue des perceptions. Nous avons, pendant un certain moment, reculé dans notre implication dans les organisations régionales et internationales. Et la tentation, c'était toujours d'interpréter ça par rapport à la France, bien évidemment. Francophonie, il y a France, c'est l'histoire de notre organisation. Donc on comprend ça, donc on continue, moi-même je continue d'expliquer que la francophonie et le Rwanda, on est membres fondateurs, on est le français au-delà de la langue rwandaise, notre langue maternelle, le Kinyarwanda, c'est la langue étrangère la plus parlée, mais les perceptions des fois sont difficiles à enrayer et la France et le Rwanda sont des pays aujourd'hui, aussi bien le président Kagame, et je le pense, le président Emmanuel Macron, qui sont dans une logique d'essayer de rapprocher nos deux pays.
Bérouk, pour un seul majeur sur RFI, comment vous la trouvez alors Louise Mushikiwabo dans ses premiers pas de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ?
Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je n'ai pas suivi les informations après cela, mais je trouve très bien qu'une femme, et en plus originaire d'un pays comme le Rwanda, un pays qui a beaucoup souffert, et je pense que c'est très bien qu'elle soit à la tête de l'OIF. Je crois qu'elle comprendrait peut-être mieux encore les problèmes de la langue française. Elle a parlé de sa langue natale, du Kinyarwanda, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne qu'il y a d'autres langues locales qui doivent aussi être respectées, et que la présence du français ne doit pas être synonyme de rejet des autres langues. Mmh. Au contraire.
En tout cas, au moment des tractations, vous étiez, même si vous n'avez pas suivi véritablement la campagne, on va dire, plus pour la rwandaise que pour l'haïtienne.
Ah oui, naturellement, bien sûr que je suis haïtien, quelqu'un de très intéressant. Mais je voulais bien voir quelqu'un d'Afrique, et encore une fois, de quelqu'un d'un pays qui a beaucoup souffert.
Vous pourriez faire diplomate, vous,
je crois qu'elle comprendrait peut-être mieux les écrivains, je l'espère. Parce qu'on oublie souvent les écrivains dans cette affaire de francophonie. Mmh. C'est devenu une affaire de coopération d'État à État. Mmh. On oublie pas ce qui fait les liens, c'est la langue française. On oublie souvent cela.
Alors, on va juste donner un chiffre. En 2003, le gouvernement mauritanien donnait comme chiffre 168 000 personnes francophones, c'est-à-dire 5% de la population. Mais c'est un chiffre qui est en progression. Et d'ailleurs, en 2014, l'encyclopédie Wikipédia en langue française est l'édition linguistique la plus consultée en Mauritanie, avec 43% de pages vues, devant 37% en langue arabe et 15% en langue anglaise. Mais quand même, Bérouk, on a l'impression, extérieurement on va dire, de loin, qu'avec la présence rigoureuse de l'islam, l'arabe connaît une montée en puissance. Pourquoi est-ce que vous êtes un auteur résolument francophone ?
D'abord, à mon avis, ce n'est pas mauvais que l'arabe soit une langue en puissance, ce n'est pas mauvais, je trouve ça bien. Mais je crois aussi qu'il y a un véritable élan vers la langue française. tous les parents pauvres ou riches veulent que leurs enfants apprennent à parler français.
C'est un mouvement nouveau,
c'est
ou
un mouvement
récent?
Très fort depuis quelques années.
Pourquoi selon vous?
Parce que, à leurs yeux, le français devient synonyme de réussite. Et même des gens qui sont déjà adultes, qui ont fait toutes leurs études en arabe, vont dans des écoles spécialisées pour apprendre le français.
Mmh. Mais il y a une question légitime qui se pose à vous, auteur. Pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas aussi en arabe? Ou est-ce que vous écrivez en arabe?
Non, je n'écris pas en arabe.
L'arabe, c'est votre langue première en
même temps. L'arabe, c'est ma langue première, c'est la langue maternelle. Moi, je dis souvent que je ne suis pas francophone, que je suis francoscribe. Ça veut dire que j'écris en français, mais je ne parle pas français tous les jours. Je ne parle pas français en famille. Très peu de mes amis conversent en français, non, on converse en arabe.
C'est une forme de schizophrénie intéressante que vous vivez. C'est-à-dire vous vivez, vous pensez, vous ressentez en arabe, certainement, mais le passage à l'écriture ne peut se faire qu'en français.
Il y a des choses que je ne ressens pas en arabe, il y a des choses que je ressens en français. Je conceptualise très souvent en français. C'est vrai qu'il y a des moments de colère quand je suis fâché contre quelqu'un.
Vous ne dites pas zut.
Je ne dis pas zut. Je dis tfour, la gassara malak, un mot de chez nous. Même quand je suis en France, quand je parle avec le français, je me fâche dans ma langue maternelle.
La francophonie, version Michael Jean, on le sait, s'est mêlée beaucoup de la question des droits de l'homme et de la démocratie. Donc je vous offre en sol majeur un petit flashback, Berouk, qui concerne votre Mauritanie en 1978.
C'est un coup d'État non violent qui a eu lieu ce matin à l'aube en Mauritanie, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Toutes les 10 minutes, entre deux marches militaires, la radio mauritanienne diffuse leur communiqué de victoire en arabe et en français. Les nouveaux maîtres du pays s'indiquent comme militaires en ordre national.
Peuple de héros, régime de la coalition antinationale et antipopulaire a pris fin. Les forces armées dépositaires en dernier recours de la légitimité nationale, conscientes de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. Je devrais dire plutôt, ont repris le pouvoir à ceux qui l'ont lâchement spolié.
C'est comme coup d'État.
Pour sauver le pays et la nation de la ruine et du dénombrement.
Et oui, lorsque Mokhtar Ouldada, le premier président du pays, le père de la nation, est renversé donc par ce coup d'État en 1978, ça, ce sont vos 20 ans, Berouk ?
Oui, c'était mes 20 ans. Et contrairement à Nizan, je pense que c'est le plus bel âge de la vie.
Oui,
on oublie que ce coup d'État a interrompu un gouvernement civil, mais on oublie que ce gouvernement s'était engagé dans une guerre qui est terrible, la guerre du Sahara. Et que c'était une guerre fratricide, c'était une guerre parfaitement inutile.
Donc vous soutenez ce coup d'État?
Oui, sans soutenir véritablement les militaires, mais je pense qu'il était inéluctable. Mais les militaires de l'époque n'avaient pas rempli toutes leurs promesses, ils avaient promis la démocratie, et ainsi de suite. Il a fallu du temps pour que vienne la démocratie.
Une parenthèse poétiquement intime, est-ce que vous êtes, vous, Berouk, qui portez ce nom, donc qui, semble-t-il, a une histoire, est-ce que vous diriez que vous êtes le fils des nuages et des vents? Comme vous l'écrivez.
Oui, je suis le fils des nuages du vent, je suis le fils de notre désert, je suis le fils de nos vieilles cités, je suis le fils de notre histoire, je suis le fils de nos petites guérillas, je suis le fils de nos petites razzias, je suis le fils de chez moi, de mon histoire.
C'est quoi l'histoire des Berouk alors ?
L'histoire des Berouk, c'est une vieille famille installée dans le sud marocain, dans la porte du Sahara, et qui a une influence au-delà, qui a protégé le commerce, qui a même à un certain moment essayé de créer un mini-état saharien pendant des dizaines d'années, et qui est une famille qui a éclaté après l'arrivée des Français et des Espagnols, et qui maintenant une famille éclatée entre d'autres pays, une famille commune, redevenue une famille pauvre comme les autres.
Donc vous êtes le fruit d'un beau métissage.
Oui, moi-même, c'est pas tous les Berouk, c'est moi. Moi, je suis, ma grand-mère est Bambara, donc j'aime beaucoup cet héritage-là.
Donc vous avez du Mali, du Maroc, vous êtes arabe, noir.
Je suis du Maroc, de la Mauritanie, arabe, noir, africain. Un peu berbère aussi, tout cela.
Alors c'est beau comme ça, hein, sur le papier, mais c'est pas toujours très simple au quotidien. Et je vais même rappeler que le régime du colonel Mawiya Oultaya, on le sait, s'est illustré par des pratiques racistes contre les négro-africains, avec des exécutions sommaires de militaires négro-africains et des réfugiés bannis de leur pays et déportés au Sénégal et au Mali. Tout ça se passait dans des conditions terribles lors du conflit sénégalo-mauritanien de 1989. Est-ce que vous, qui êtes une sorte d'emblème d'un de ce beau métissage, Berouk, vous savez où on en est de cette question de la couleur en Mauritanie?
Oui, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas la couleur qui est fondamentale, c'est la communauté, c'est l'ethnie. Les Maures ne sont pas blancs, ils sont métissés, il y a des Maures noirs et des blancs. Les peules ne se veulent pas toujours noires. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question d'ethnie qui a opposé les gens et qui les oppose depuis très longtemps. C'est la vieille inimitié entre les nomades et les sédentaires. Pour la crise de 89, il faut dire que c'était quelque chose. On était devenu autre chose.
Ça veut dire quoi, on était devenu autre chose?
Moi, j'ai découvert qu'on était devenu des monstres, que les gens se tuaient dans la rue, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie, il ne faut pas oublier, parce qu'on a tué des centaines de Mauritaniens au Sénégal et que ça a commencé d'ailleurs là-bas. Ça a créé un fossé aussi entre les communautés en Mauritanie.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette question ethnique est réglée ou est-ce qu'elle est toujours dormante?
Oui. Tout ce que j'ai pour vous dire, c'est que le président actuel a voulu régler le problème. Il est allé prier sur les morts à Kaïd. Dit, et la prière sur les morts, l'État a reconnu les veuves dans leurs droits et les orphelins et tous les ayants droit. Mm-hmm. Mais il faut dire que historiquement, d'ailleurs, ces populations-là sont souvent très entremêlées, très métissées. Il ne faut pas croire que les gens se haïssent. Non.
Mm-hmm. Alors, il y a une autre question qui intéresse le journaliste que vous êtes, Berouk, c'est la question de la liberté de la presse. J'ai vu que la Mauritanie avait perdu 17 places dans le classement de Reporters sans frontières pour 2018 et ça a un lien, ce déclassement, avec la condamnation à mort du blogueur de Mohamed Ould Khetir, pardon pour la prononciation, pour apostasie. C'était une sentence par ailleurs qui a été annulée par un arrêt de la Cour suprême en 2017, sauf que les avocats de ce blogueur restent sans nouvelles du jeune homme. Et puis au-delà de ça, on note aussi la fermeture de la quasi-totalité des radios et des télévisions privées. Mais je me demande comment vous faites, vous. Est-ce que vous êtes d'abord journaliste ou d'abord conseiller de la présidence?
Aujourd'hui, je suis conseiller de la présidence, mais je reste journaliste dans mon cœur parce que j'y ai été dans mes plus belles années.
Oui, mais un journaliste qui ne peut plus parler.
Oui, mais je m'occupe d'autres choses. Je suis aussi écrivain, moi. Je parle parce que j'écris, mes livres parlent.
Coup d'État ou coup de théâtre, je sais pas, mais en tout cas, je vous emmène au cinéma.
Salam alaikum.
Alaikum salam. Alors, ça c'est Hanne.
Il recommande la barre de fou. Il regarde ma harum.
Moi, c'est fou, non, quand d'amdi. Moi, c'est beau, record d'ambora, il roule, il roule, da tamio, da tinji, ha, da marfajo. Moi, c'est beau.
Il regarde quand d'amga. Il regarde jihad, il connaît.
Al jihad mai warakata jahirune warakata jahir yarkoy yarkoy hudara wala koy radio warfata ka jitindika tumbutune barka baka goy dindise a goy ganda lakal nda sawab ana cinna marfajo jingal watiri man yoro baka jinganda lakal latabati yoro warkuna war mafataka hunne
I
E comme île déserte.
Oui, je sais que sur votre île déserte,
Timbuktu,
vous emporteriez ce film d'Abderrahman Sissako. Pourquoi?
C'est un excellent film de l'excellent réalisateur. C'est un film où, vous savez, au début du film, ça commence par des djihadistes qui courent derrière un lièvre, qui n'arrivent pas à l'attraper. Et à la fin, on voit le lièvre encore. Ils ne l'ont pas rattrapé. C'est une image très forte.
Vous qui avez l'œil sur la culture, il y a combien de salles de cinéma en Mauritanie?
Peut-être aucune. Cinéma est mort en Mauritanie comme il est mort dans beaucoup de pays africains.
Combien de librairies?
Je ne sais pas si on peut compter beaucoup de librairies qu'on peut les considérer comme des librairies. Des librairies, il n'y a que des livres religieux. Mm-hmm. Et il doit en avoir 4 ou 5 à Nouakchott.
En tout cas, le livre est rare, effectivement, en Mauritanie. Vous écrivez dans Je suis seul. Depuis que les parvenus se sont installés, depuis qu'ils ont remplacé les anciens colonisateurs, ils ont tué les bibliothèques et assommé la culture. Ils voulaient régner sur des idiots et ce sont d'autres idiots qui les ont envoyés paître au loin.
Ah oui, c'est une belle opposition entre les idiots du système, ça veut dire les idiots de ceux qui ressassent indéfiniment les pensifs des autorités, aussi bien des autorités religieuses que des autorités politiques, que des autorités morales, que ces autres ignorants qui viennent de loin et qui disent « nous allons vous montrer la voie de Dieu, la vérité de Dieu ».
Mais donc le départ des colonisateurs a été suivi du meurtre des bibliothèques, à vous lire, Berouk. C'est un amer constat,
oui,
sur l'indépendance.
Ça veut dire qu'à l'indépendance, vous savez, le colonisateur n'a rien laissé derrière lui. n'a rien fait. Il n'a pas construit de route, il n'a pas construit de bâtiment, il était dans un désert, il faisait la sécurisation des frontières et c'est tout. Il ne s'occupait pas des populations, que les populations ne s'occupent pas de lui. Et j'ai dit souvent que nous, en fait, en Mauritanie, nous n'avons pas été colonisés. 99% de la population n'avait jamais vu un Français.
En tout cas, vous êtes, on le disait, Bérouk, au cœur de multiples carrefours identitaires, arabes, africains, sahéliens, le tout dans un costume occidental, j'en témoigne. Et puis, vous êtes un amoureux de la philosophie nomade, de la pensée mystique, mais aussi de la raison qui prône liberté et égalité. Vous êtes une sorte d'équilibriste.
Oui, mais pourtant, je ne sens aucun schisme en moi. Non, je ne sens pas de schizophrénie profonde. Que le fait que je sois musulman, que je sois saharien, que je sois nomade, que je sois africain, que je sois berbère, ça ne me fait pas de moi des gens multiples. Je suis un. Le fait que j'aime la poésie mystique, la poésie des sophies, que j'aime la poésie française, ça ne crée pas de conflit en moi. Le fait que...
Mais il peut y avoir des...
Que je lise en arabe, en français ou en anglais.
Des conflits de réflexion. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la démocratie, c'est un concept universel ou c'est un concept qui doit s'adapter, par exemple, au ciel bédouin?
Moi, j'ai toujours pensé que c'est une aberration que de dire que la démocratie, c'est un système universel. La démocratie, c'est que les institutions soient issues de la volonté de la population. Mais nous, en Afrique, nous sommes laissés emprisonnés par des structures, ni d'ici, ni de chez vous. Pas une manière de penser, ni de chez vous, une manière d'agir, une manière de faire des élections. Et je pense que c'est beau d'avoir des parlements. On a un parlement à deux chambres, on a toutes sortes d'institutions, mais c'est bien beau. Mais quand ça ne sert à rien, quand ça n'a pas d'utilité, ça ne sert à rien.
En tout cas, une dernière remarque en sol majeur. Je crois que votre vrai pays, c'est le nomadisme, Bérouk. Et en même temps, ce nomadisme en 2018, comment il s'exprime?
Oui, mon pays, ce n'est pas le nomadisme. Mon pays, c'est d'abord une terre, c'est d'abord le Sahara. C'est d'abord une population qui parfois n'est plus nomade. Mais vous savez, on est toujours un peu nomade parce que chacun de nous rêve de sortir, d'aller à quelques kilomètres, de boire du thé au-dessus d'une dune, de dormir en plein ciel dans une dune. Ça, on le fait chaque jour. Ça nous rapproche avec ce que nous avons été, ce que nous sommes en réalité.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Bérouk. Tous les chemins mènent à Bérouk, donc surtout celui de la lecture. Je suis seule, son nouveau roman est donc paru aux éditions Elizade. Et puisque vous passez votre temps à faire des choix apparemment, pouf pouf, entre Oumou Sangaré et Abdelmalik, vous choisissez qui?
J'ai peur de choisir, je ne sais pas choisir.
Vous avez peur?
J'ai envie de choisir Oumou Sangaré, mais je ne peux pas choisir. Mais j'aime beaucoup la musique d'Abdelmalik.
Donc on écoute Oumou Sangaré en pensant à Abdelmalik.
Voilà, ou le contraire.
Ça va être compliqué ça.
I'm
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris, oui je vérifie. Le trio Sofia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki vous espère la semaine prochaine autour d'une rediffusion avec Monsieur René de Pestre. À la semaine prochaine.